La vie de William Dewsbury, ministre précoce et éminent de l'Évangile de son Seigneur et Maître, Jésus-Christ par Edward Smith, 1836. Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour renvoi aux Écritures ou pour des détails dans les écrits. Lorsque vous avez cliqué vers la Bible en ligne, vous pouvez changer et mettre à jour afin de voir la version de la Bible que vous préférez. Préface de l'éditeur du site William Dewsbury fut l'un des Quakers les plus doués des débuts. Il fut conduit à une pleine maturité en Christ, en commençant dès l'âge de 7 ans et en l'achevant dans sa vingtaine. Manifestement, il fit l'expérience de la translation dans le royaume des cieux. Il écrivit de nombreuses lettres directement depuis la présence de Dieu et sous l'impulsion de paroles venant de Dieu. Il subit l'un des emprisonnements les plus longs de tous les Quakers, 20 ans au total. Sa vie et son témoignage constituent un merveilleux témoignage de la grâce transformatrice et puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette biographie est écrite par un Quaker du XIe siècle, s'adressant aux Quakers de son temps, la limitation du public visé illustrant la complaisance du mouvement Quaker à l'égard de toute action au-delà de leur société. Il est représentatif de cet état d'esprit alors répandu chez les Quakers, admirant les paroles de leurs fondateurs, mais jugeant avec esprit critique les particularités de leurs esprits et de leurs mobiles, nourrissant l'idée qu'ils avaient été singulièrement tenus de prêcher aux autres uniquement à cause de l'époque. Plutôt que de supprimer toutes les subtilités de doute et les rationalisations du biographe, j'en ai laissé certaines, afin de mieux faire comprendre l'éloignement des Quakers par rapport à la vérité, sur lequel une page séparée donne davantage de détails. Malgré les tergiversations du biographe, le sujet, William Dewsbury, apparaît solide, entier, noble, engagé, plein de sagesse, apte au conseil et pleinement instructif pour le chercheur sérieux. William Dewsbury fut formé par le Christ dans une complète indépendance du ministère de Fox. Pourtant, si vous avez lu le journal et les lettres de Fox, vous entendrez exactement le même message, le même raisonnement, la même force, le même courage et la même foi que Fox manifestait. Dans les 50 années qui suivirent la mort des grands Quakers des débuts, les Quakers des temps ultérieurs commencèrent à douter des affirmations de perfection de Fox, Dewsbury et de beaucoup d'autres, les réduisant à des exaltés illusionnés. Ils ne pouvaient comprendre pourquoi les premiers Quakers étaient assez impolis pour entrer dans le culte d'une autre secte afin d'y déclarer la vérité. Ces Quakers d'une époque plus tardive, n'en étant manifestement pas eux-mêmes en possession, ne pouvaient comprendre les conséquences de mourir sans une unité totale avec Christ, la vérité. Lorsque vous lisez les lettres de Dewsbury, ainsi que celles d'autres figures Quakers des débuts sur ce site, il devient de plus en plus difficile de rejeter tout un groupe de personnes comme étant illusionnées. Tous avaient le même message, tous avaient la même expérience, tous possédaient le même Christ en grande mesure, ainsi tous parlaient la parole de Dieu. 528 Quakers ont écrit 2800 livres sur une période de 50 ans, tous avec le même message, le même langage, les mêmes appuis scripturaires, le même esprit de Dieu, la même espérance, la même foi, et le même évangile promettant la liberté du péché, la pureté, l'union et la translation dans le royaume de Dieu des ici-bas, puis pour toujours. Non, ces grands hommes et ces grandes femmes de Dieu n'étaient pas illusionnés. Aux yeux du monde qui vit selon la chair, les premiers Quakers étaient des fous pour Christ. Ce qui les écarte aujourd'hui avec indifférence se condamne eux-mêmes à ne jamais découvrir la paix et la joie éternelle qu'ils l'ont connue, malgré la haine dont ils furent l'objet, et des persécutions incroyablement dures, à exactement comme Jésus a dit que ses disciples seraient persécutés et haïs. William Dewsbury fut l'un des plus grands de ces chrétiens éminemment vrais et fidèles. Chapitre I. William Dewsbury, lieu de sa naissance, Allethorpe, conviction, précoce, petit berger, apprenti, tisserand, aucun secours trouvé auprès des ministres du monde. Parmi les nombreux mémoriaux qui ont été conservés au sujet de la vie, des travaux, des souffrances et de l'expérience religieuse des premiers membres de la Société des Amis, et qui se trouvent consignés dans de nombreux volumes de leurs écrits, aujourd'hui consultés dans une mesure seulement limitée, peu ont paru mériter d'être préservés davantage que ce qui concerne cet ancien serviteur de Dieu souffrant et ministre de Jésus-Christ, William Dewsbury. William Dewsbury naquit à Allethorpe, un village près de Pocklington, dans East Riding du Yorkshire, au début du XVIII siècle. Je n'ai pas pu découvrir avec certitude l'année de sa naissance, bien que son mémorial indique qu'il mourut en 1688, ayant atteint un bel âge. Ses parents semblent avoir été des personnes religieuses, et sans doute ont-ils contribué à entretenir cette sensibilité d'esprit qui forma, dès son jeune âge, un trait frappant de son caractère. Son père mourut alors que le fils n'avait que 8 ans, mais, porté à la réflexion comme il l'était, et pas trop jeune pour être sensible à la perte ainsi subie, l'impression ne s'effaça pas aussi vite que c'est l'ordinaire chez les enfants. Car tandis qu'il se lamentait en pleurant sur cet événement solennel et bouleversant, il entendit ce qui lui parut être une voix qui disait « Pleure pour toi-même, car ton père va bien ». L'effet produit sur son esprit par cet incident extraordinaire fut si puissant que, dès lors, il passa de nombreuses heures qui, dans l'enfance, sont habituellement consacrées au jeu dans la prière et le jeûne, sous le sentiment de sa condition perdue et sans ressources. Ce n'est pas l'un des détails les moins remarquables de la vie de William Dewsbury, comme ce fut aussi le cas pour quelques autres des premiers Quakers, que presque dès sa toute petite enfance, il fut rendu profondément conscient de la dépravation de notre état déchu par une puissance qui n'était pas la sienne et qui n'était pas à sa disposition. À mesure qu'il avançait en âge, il devint de plus en plus sensible aux penchants corrompus de sa nature, et telle fut sa condamnation, vivre sans la connaissance ni la crainte de Dieu. Après de nombreuses années de réflexion, il dut déplorer les actes mêmes de ses jours d'enfance, bien qu'il n'y ait aucune raison de croire qu'il ait dépassé la légèreté ordinaire des jeunes, ou que sa conduite soit allée au-delà de ce qu'on appelle communément l'innocence à son âge. De cette manière, il lui fut donné de voir la nécessité indispensable de ce changement de cœur qui, en temps voulu, en se soumettant aux manifestations ultérieures de la lumière et de la grâce divine sur son esprit, fut pleinement opéré à sa joie inexprimable, et qui, sous l'Évangile, est dénommé « être né de nouveau d'une semence incorruptible » par la parole de Dieu, qui vit et demeure éternellement. Les matériaux permettant de composer un mémoire biographique de cet ami sont très rares, et nullement à la hauteur de ce que le poids de son caractère ainsi que l'importance et l'étendue de ses travaux amèneraient à souhaiter. Dans un mémorial, toutefois, qu'il écrivit alors qu'il était en prison à Northampton, en 1655, les circonstances de cet emprisonnement seront relatées plus loin, il a laissé consigner certains faits intéressants relatifs à son expérience religieuse, jusqu'à l'époque où il écrivait alors. Le traité en question fut rédigé et diffusé pour l'information générale, afin de dégager la vérité des mensonges qu'on lui imputait et afin de fermer la bouche des faux accusateurs. Et comme l'une des accusations portées contre lui, et pour laquelle il fut incarcéré, était qu'il enseignait au peuple qu'il n'y avait pas de péché originel, il se présente à son lecteur dans les termes suivants « J'ai été conçu dans le péché et mis au monde dans l'iniquité, et dans cet état j'ai vécu me complaisant dans l'orgueil et le plaisir, dans la frivolité et la vanité comme tous le font, qui sont dans cette nature, jusqu'à ce que j'eusse environ 8 ans. Même avant ce temps, la lumière dans ma conscience rendait témoignage contre moi et me causait quelques troubles, mais je me suis éloigné de la lumière et j'ai suivi le conseil de mon propre cœur, ce qui m'a conduit dans la vanité et à vivre sans la crainte de Dieu. Vers l'âge de 8 ans, la parole du Seigneur est venue à moi, « Je t'ai créé pour ma gloire, tu devras me rendre compte de toutes tes paroles et de toutes tes actions accomplies dans le corps. Cette parole a éclairé mon cœur et a ouvert en moi le livre de la conscience. » Où était écrit tout ce que j'avais fait depuis que j'avais eu quelques souvenirs. Quand j'ai lu ma condition, comment j'avais vécu sans Dieu, qui m'avait créé pour sa gloire, la parole du Seigneur est venue à moi. La hache se glorifiera-t-elle contre celui qui s'en sert pour couper, ou la scie s'exaltera-t-elle contre celui qui la manie, comme si le bâton faisait trembler celui qui le lève, ou si le bâton se levait lui-même comme s'il n'était pas du bois. Et par la puissance de la parole du Seigneur qui parlait en moi, mon intelligence fut éclairée, et ma conscience rendit témoignage que telle était ma condition. Je m'étais élevé contre le Dieu vivant en vivant sans sa crainte, lui qui m'a créé pour vivre dans l'obéissance à lui, moi, au contraire, j'avais vécu dans la désobéissance jusqu'à ce jour-là. Alors, une profonde tristesse s'empara de moi, et je ne savais que faire pour faire connaissance avec le Dieu de ma vie. Ce que je rapporte maintenant se produisit entre 8 et 13 ans, à cette période précoce de sa vie s'illustra la vérité scripturaire selon, laquelle c'est le péché qui a produit la séparation entre l'homme et son Dieu. Sous ces fortes impressions, William Dewsbury s'efforça de changer le cours de sa vie. Il cessa ce qu'il était alors amené à considérer comme une conduite vaine, dans laquelle il avait vécu auparavant, et il devint réfléchi et sérieux, bien au-delà de son âge. Il commença, de son propre choix, à lire les Saintes Écritures et d'autres livres sur des sujets religieux, tout en gémissant et en priant Dieu, bien que, selon le récit, il n'eut alors reçu aucune compréhension claire de l'endroit où il devait être trouvé. Il est toutefois évident que l'esprit de ce jeune homme, sous les opérations vivifiantes et scrutatrices de la grâce divine, fut merveilleusement ouvert à la vue de son état spirituel. Avec David, son âme avait soif de Dieu, du Dieu vivant, et son cri, en substance, était « Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu ?» Il fut vain qu'il profita avec diligence des occasions qui lui étaient offertes d'apprendre, par les enseignants publics de la religion et par d'autres moyens extérieurs, ce qu'il désirait ainsi ardemment connaître et goûter en lui-même. Car si son propre esprit avait été suffisamment préparé à recevoir une telle connaissance, les vues extérieures et charnelles de cette catégorie de personnes n'étaient pas propres à satisfaire son esprit en quête. Il les décrit comme ne considérant le Sauveur qu'au regard de son apparence extérieure et visible, perdant entièrement ce qui est intérieur et spirituel, comme l'enseignent abondamment les Saintes Écritures. Quand il demandait à ses docteurs le Christ, qu'il désirait connaître par-dessus toute chose, il lui disait que sa venue serait du ciel, entendant par là le firmament au-dessus de nous, et levant les yeux, ils indiquaient ainsi d'une manière significative vers quel point leur propre attention se dirigeait. Ainsi, ces ministres de la lettre manquèrent d'apporter à l'esprit en quête du jeune Dewsbury l'instruction que son âme désirait ardemment, et l'expérience de nombreuses années ultérieures lui prouva sans aucun doute qu'une telle connaissance du Père et du Fils, qui est la vie éternelle, ne pouvait être atteinte par de tels médecins sans valeur. Son attention rigoureuse aux observances extérieures, si souvent imposée par des professeurs dans une tentative d'imitation des saints d'autrefois, mais non avec la vie dans le même esprit, dans le jeûne, la prière et divers autres aspects, tels qu'ils sont rapportés de Pierre Corneille et d'autres, lui étaient tout aussi insatisfaisantes. Son âme était troublée à cause de lui, et il constata qu'aucun sacrifice qu'il pût faire ne parvenait à satisfaire la justice divine ni à lui donner la paix. Au contraire, en tant qu'enfant d'Adam, il devait largement partager les conséquences de la transgression du Père de l'humanité, un profond sentiment de l'aliénation d'avec Dieu, qui, immédiatement après cet événement, s'abattit sur sa postérité. Dans la sentence de condamnation que Dewsbury ressentait alors en lui, et dans l'impossibilité totale qu'il éprouvait, malgré ses efforts d'obtenir sa propre paix, s'ouvrit à son intelligence le mystère des chérubins, placés à l'orient du jardin d'Éden, portant une épée flamboyante qui tournait de tous côtés pour garder le chemin de l'arbre de vie. Par cette épée, la loi juste de Dieu, la justice s'exerçait sur la nature transgressante en lui. Jusqu'à sa 13e année, son occupation fut surtout celle d'un petit berger, et Allathorpe demeura sa maison. Cette situation retirée et ce mode de vie semblent avoir été très en accord avec son état d'esprit, car il le préservait des interruptions de la compagnie et lui offrait l'occasion de s'adonner à la méditation secrète et de gémir et soupirer après la connaissance salvatrice de Dieu. Mais peu après cette période, alors que ses proches songèrent à le placer en apprentissage afin qu'il apprît un métier, il entendit parler d'un peuple appelé Puritain, près de Leeds, à 30 milles du lieu de sa naissance, dont on disait qu'ils entendaient le Seigneur et marchaient avec une plus grande rigueur de profession religieuse que beaucoup de ceux qu'il avait connus. Tant était grande sa faim et sa soif de justice qu'il n'eut aucun repos dans son esprit jusqu'à ce que ses parents, sa mère s'étant, je suppose, remariés eussent réussi à lui obtenir une place là-bas, sans préférence quant à la nature de son emploi, si, dit-il, je pouvais être parmi ceux qui craignaient le Dieu vivant, et ainsi faire connaissance avec le Dieu de ma vie, qui m'a créé pour lui-même. Il fut donc placé en apprentissage chez un tisserand de drap à Oldbeck, près de Leeds, qui se révéla être un maître très dur, mais le Seigneur lui donna, avec beaucoup de patience, de supporter ses épreuves, d'autant plus qu'elles s'accompagnaient d'une part notable de mauvaise santé, jusqu'à ce que la période de son apprentissage fût presque achevée. Pendant ce temps, il continua avec toute diligence à chercher la connaissance dont son âme avait grandement soif et dont l'absence l'angoissait. Il assistait assidûment à la prédication de tous les principaux docteurs de la religion dans les environs, notait leurs sermons en sténographie, puis allait ensuite à leur maison pour s'entretenir avec eux, afin que, si possible, il pût obtenir quelque satisfaction au sujet de ce qui faisait l'objet de sa faim. Mais en cela il se trouva déçu, le résultat lui prouvant qu'aucune profession extérieure de religion, si élevée fût-elle, aucune connaissance de l'Écriture, si complète en elle-même, aucune attention aux observances religieuses rituelles, si stricte fût-elle, ne pouvait jamais purifier l'âme du péché, ni la rétablir dans un état d'acceptation devant Dieu. Il lui fallait Christ, le premier entre 10 000, le bien-aimé des âmes, et sans lui il ne pouvait vivre, voici ses propres paroles. Parlant de ces gens sérieux dans le district autour de Leeds, il y avait, dit-il, comme on l'avait rapporté, beaucoup de paroles sur Dieu qu'on appelait prêcher et le professer en paroles à partir de la lettre de l'Écriture, ce que les saints avaient déclaré, imitant ainsi la pratique des saints avec une sagesse charnelle, et cherchant le royaume de Dieu dans des observances extérieures, comme je l'avais fait avant d'y venir. Mais je n'en ai rencontré aucun qui pût me dire ce que Dieu avait fait pour leurs âmes, en les rachetant du corps de péché sous lequel je gémissais, et qui me séparait de la présence de Dieu. Bien que je marchasse strictement avec eux dans leurs observances extérieures, et que je courusse entendre un homme après l'autre, qu'on appelait ministre, je ne trouvais ni repos ni paix pour mon âme lassée. L'épée flamboyante, la loi juste de Dieu, criait en moi pour un accomplissement parfait de la loi, et me rencontrait partout où j'étais, de sorte que je ne pouvais trouver aucune paix dans ce culte de Dieu que le monde avait établi, comme recevoir le pain et le vin, qu'il me disait être les sceaux de l'Alliance. Longtemps je n'osais les recevoir, parce que je n'étais pas moi-même préparé, car le mal de mon cœur se tenait devant moi. Quand j'allais les recevoir, je cherchais le Seigneur pour qu'il me garde par sa puissance, afin que je les reçoive dignement, et lorsque je les recevais, mon désir était que le Seigneur scellât sa volonté à mon âme, mais je ne trouvais rien de scellé à mon âme par cela. Ensuite, une grande crainte s'empara de moi pendant longtemps, et la condition de Judas fut jetée dans mon esprit, jusqu'à ce qu'il me soit montré que le sceau de l'Alliance était l'Esprit de Christ, et non un élément extérieur, et que le souper était le corps et le sang de Christ que le monde ne connaît pas, et que moi non plus je ne connaissais alors, mais j'étais amené à attendre qu'il me soit manifesté. Alors je n'osais plus me joindre au monde dans cette pratique, ni dans le fait de chanter les états de David, qu'ils appelaient chanter des psaumes. Car la lumière dans ma conscience me fit voir le mal de mon cœur, je n'étais pas dans l'état de David, le sentiment de cela ferma ma bouche, et tandis que d'autres chantaient, je gémissais et pleurais faute de l'esprit pur qu'avait David, et qui le faisait chanter. Je n'étais pas non plus capable de m'appliquer les promesses qu'il me disait m'appartenir, car je ne trouvais aucune promesse appartenant à cette nature, mais la colère de Dieu demeurait sur moi, parce que je désobéissais à son conseil en moi, la lumière dans ma conscience. Mais, ignorant que c'était son conseil, je m'en suis éloigné, et j'ai prêté l'oreille à ce qui disait parler de la bouche du Seigneur, et j'ai été trompé, et ainsi amené à errer par leurs mensonges, eux qui m'attiraient à chercher le royaume de Dieu dans des observances extérieures. Mais la parole du royaume était en moi, et elle exerçait le juste jugement de Dieu sur mon cœur adultère, qui prenait conseil et non de sa bouche. Sous ces exercices d'esprit, la santé de William Dewsbury se détériora, et il devint si faible qu'il lui fut impossible, malgré tous ses efforts consciencieusement fournis, de répondre aux attentes de son maître. Celui-ci, pensant qu'il était atteint de phtisie, fut un moment disposé à le renvoyer chez ses proches, mais après réflexion, il jugea plus prudent de prendre avis médical. Dewsbury cependant, étant pleinement conscient de la véritable cause de son mal, et concluant à juste titre qu'elle n'était autre que le mal de son propre cœur et le deuil spirituel qui en résultait, refusa résolument d'employer de tels moyens pour se soulager, à une seule exception près, afin d'éviter de donner scandale. Lorsque, après une recherche diligente parmi les puritains, il ne parvint pas à trouver qui que ce soit capable d'appliquer un remède à son mal spirituel, il fut contraint de faire connaître son cas à ceux qui, dans le monde, étaient tenus pour les ministres et professeurs les plus expérimentés, et de leur demander ce qu'ils devaient faire pour être sauvés. Mais eux aussi se révélèrent être des médecins sans valeur, de simples ministres de la lettre. Ils lui dirent de croire au nom de Christ et de s'approprier les promesses, mais ils ne lui conseillèrent jamais d'attendre la révélation de Jésus-Christ dans son propre cœur, et cela ne fit qu'ajouter à sa douleur d'être ainsi pressé de croire en Christ, alors que ni lui à ce moment-là, ni ses conseillers, ne savaient où il devait être trouvé, ni comment croire en lui pour le salut de l'âme. Chapitre I 1642. Conflit spirituel s'engage dans l'armée des illusionnés, démissionne instruit par Christ dans la condamnation scellée par l'esprit astérisque astérisque. Le biographe identifie à tort les expériences ci-dessous comme scellées par l'esprit, alors qu'il vécut plutôt le jour du Seigneur, avec le baptême de feu et de mort et la seconde venue. Ces conflits spirituels continuèrent ainsi à éprouver son esprit pendant quelques années, et nous voici amenés au temps des guerres civiles, vers l'année 1642, quand j'estime qu'il avait 21 ans, et que le terme de son apprentissage touchait à sa fin. C'est à ce moment que William Dewsbury, comme beaucoup de personnes ardentes mais bien intentionnées, tomba dans un piège que l'ennemi de toute justice, meurtrier dès le commencement, leur tendit au moyen des raisonnements plausibles de certains qui se disaient ministres de Christ. Ces gens lancèrent le cri « Maudissez mes roses », parce que tous n'étaient pas aussi prompts qu'ils l'auraient voulu à dégainer l'épée pour la cause de la liberté civile et religieuse, acte qu'ils appelaient « Monter au secours de l'Éternel contre les puissants ». Par cet appât, placé devant lui sous un jour si séduisant, William Dewsbury fut pris, et l'incitation à l'avaler fut sans doute plus grande chez lui que chez certains autres, du fait du désespoir qu'il traversait alors. Son cas n'était pas dissemblable de celui décrit au verset 6, 7 et 8 du chapitre 6 du prophète Michée. Lui aussi, comme l'individu qui y est décrit, était prêt à tout sacrifice pour la paix. Il était disposé à livrer son corps à la mort par obéissance au Seigneur, si par une telle mesure, il eût été possible de délivrer son âme du péché, d'échapper à la condamnation sous laquelle il se trouvait alors, et d'atteindre ainsi la connaissance de Dieu. Ainsi donc, ne voyant pas alors l'inconsistance de l'épée parmi les chrétiens, se prétendre serviteur de Christ et en même temps, agir d'une manière diamétralement opposée à son exemple, à son précepte et à son esprit, et ne se souvenant pas alors que Christ n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver, il se joignit à ce petit reste, comme il l'appelle, qui entra dans l'armée du Parlement, et qui disait combattre pour l'Évangile. Mais quelle que fût la direction qu'il prit en cette période de sa vie, la déception semble avoir été le fruit de son travail. Il entra dans l'armée avec l'attente considérable d'y rencontrer des compagnons de route dont la quête principale fut la même que la sienne et dont les esprits eussent passé par des baptêmes semblables, mais il fut trompé. Il y trouva autant d'ignorance du véritable Évangile, de son accueil spirituel et de Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'il en avait jamais rencontré auparavant. Il fit donc un voyage en Écosse à la recherche de ceux qui y marchaient dans la crainte du Seigneur et arriva à Édimbourg, où, nous dit-il, il ne trouva rien que formalité, les docteurs appelant le peuple à chercher le royaume de Dieu dans des observances extérieures. Il retourna donc en Angleterre et chercha celui que son âme aimait et désirait parmi les anabaptistes et les indépendants. Ceux-ci, nous dit-il, disaient qu'ils étaient les enfants de Dieu et qu'ils dressaient une image plus glorieuse dans les choses extérieures. Mais il ne se sentait pas libre de les rejoindre, car c'est le témoignage de l'amour de Dieu à son âme qu'il désirait et cherchait. Alors, dit-il, le Seigneur me révéla que son amour ne pouvait être atteint par rien de ce que je pouvais faire dans aucune de ses observances extérieures, et dans toutes ses méditations de ma sagesse charnelle, tandis que je cherchais le royaume du haut dehors, là l'épée flamboyante se retournait pour garder le chemin de l'arbre de vie. Elle m'en tenait à l'écart, me terrassait, arrachait toutes mes couvertures, et détruisait cet esprit qui regardait ainsi au dehors pour trouver le royaume des cieux. Alors mon esprit fut tourné vers l'intérieur par la puissance du Seigneur, afin d'attendre dans son conseil la lumière dans ma conscience pour entendre ce que le Seigneur dirait. Et la parole du Seigneur vint à moi et dit, « Rengaine ton épée, si mon royaume était de ce monde, alors mes enfants combattraient, ne sais-tu pas que, si j'en avais besoin, je pourrais avoir de mon Père 12 légions d'anges. » Cette parole éclaira mon cœur et révéla le mystère de l'iniquité, elle montra que le royaume de Christ est au-dedans, et que ses ennemis sont au-dedans et spirituels. Mes armes contre eux devraient aussi être spirituelles, la puissance de Dieu. Favorisé de ces indications claires et scripturaires de la volonté du Seigneur à son égard, William Dewsbury n'hésita plus sur la conduite qu'il lui convenait de suivre. Ne se sentant plus libre d'employer l'épée pour détruire ses semblables, et cela sous la fausse idée de faire avancer le royaume de Christ, enthousiasmi, en vérité, d'un caractère des plus dangereux. Il remit son arme dans son fourreau et quitta l'armée. Ayant heureusement accompli cette résolution, il reprit le chemin de son foyer et y travailla à son ancien métier de tisserand de draps, mais il ne fait aucune mention de ses activités commerciales, et nous sommes laissés à conjecturer quant à leur ampleur, ainsi qu'à sa réussite et à sa prospérité astérisque à cet égard. Il nous apprend toutefois que son esprit était intérieurement occupé, tandis qu'il travaillait de ses mains, à attendre le Seigneur dans la voie de ses jugements, jusqu'à ce que sa propre volonté fût amenée à se soumettre à la volonté du Seigneur. Divers types scripturaires furent, de temps à autre, ouverts à son intelligence pour sa grande instruction, principalement ce qui, par les figures de Caïn, Ésaü, Pharaon, l'Égypte, etc., expose la condamnation sous laquelle se trouve l'homme de péché, montrant comment l'esprit charnel n'est pas, et ne peut pas être, soumis à la loi de Dieu. Sous le sentiment intérieur et la perception qu'il était lui-même par nature engagé dans la même condamnation, il fut amené à la résolution de s'abandonner sans réserve à la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, et de tout remettre à sa disposition, quoi qu'il en fût soit pour le condamner, soit pour le sauver, si la première option devait être conforme à la volonté divine, il ne pouvait que reconnaître qu'elle serait juste, si la seconde, ce serait par son libre amour. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, d'après d'autres témoignages, il semble que, durant cette période de 6 ans, il fut grandement prospéré par le Seigneur, ne manquant pas de fonds lors de ses 20 années d'emprisonnement ultérieur, continuant de prendre soin de sa femme et de ses enfants, et ayant encore de quoi pourvoir aux besoins d'autrui. Cette même prospérité fut accordée à George Fox avant qu'il ne commence sa recherche intense et son long ministère ultérieur. À cette époque aussi, il semble, d'après certains indices qu'il a laissés consigner, que William Dewsbury reçut à son grand encouragement une perception satisfaisante et claire de la nature des diverses dispensations de la miséricorde divine envers l'humanité, en commençant par Adam et en passant par l'administration de Moïse jusqu'à celle de Jean. Mais il n'en précise pas très clairement les détails exacts. Quoi qu'il en soit, le résultat fut que, tandis qu'il demeurait dans l'état de condamnation mentionné, se lamentant au fond de sa misère, sans aucun espoir de délivrance par quoi que ce fût qu'il pût faire pour apaiser la colère de Dieu, il fut favorisé dans le secret de son âme, d'une évidence claire qu'une rédemption gratuite lui était réservée dans le Seigneur Jésus, et il lui fut accordé, même dans cet état de condamnation, de l'encouragement à attendre sa venue, lui qui, au temps fixé du Père, dit-il, a. Alors je témoignai que le salaire du péché, c'est la mort, et que le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, mon Seigneur. La mort règne sur tous d'Adam à Moïse, et il n'y a point de repos pour l'âme jusqu'à ce que Christ soit manifesté, les Écritures en rendent témoignage, et moi je témoigne que ces Écritures s'accomplissent en moi. Astérisque, le biographe identifie à tort les expériences ci-dessus comme scellées par l'Esprit, et l'appelle plus tard le baptême de l'Esprit. Mais ce qui précède est l'expérience de Dieu plus de la seconde venue, au jour du Seigneur, et son âme morte entendit sa voix, la voix comme le tonnerre sur les eaux, et par sa voix fut rendue vivante, ce qui se produit à la seconde venue et signale le passage de la mort à la vie éternelle. Cela est traité avec beaucoup de détails dans son merveilleux sermon sur la nouvelle naissance, également disponible à votre lecture. Il naquit de nouveau dans un monde nouveau, avec le baptême de feu et le baptême de mort, afin d'être relevé avec Christ comme une nouvelle créature dans un monde nouveau. Avant de poursuivre le récit, il peut être avantageux de faire une courte pause, afin de formuler quelques réflexions suggérées par la partie qui se trouve maintenant sous les yeux du lecteur. Le chrétien expérimenté trouvera aisément une certaine compréhension et un goût de ces passages, lesquels peuvent être enveloppés d'un certain degré d'obscurité pour d'autres lecteurs. Ceux qui ont traversé des exercices religieux d'une tendance semblable à ceux de William Dewsbury auront peu ou pas de difficulté à concilier telle partie de son expérience qui, bien qu'elle ne soit pas en tout point parallèle à la leur, n'en sont pas moins instructives, scripturaires et vraies. Le fondement posé dès l'origine dans son esprit quant à la nécessité de la grande œuvre de la régénération, par ce profond sentiment de la dépravation et de la nature pécheresse de l'homme, mérite tout particulièrement notre attention, d'autant plus qu'il est associé au fait important qu'il a pris cette vérité, le concernant personnellement, par ses impressions puissantes et profondes faites secrètement sur son esprit, sans l'intervention des moyens ordinaires d'instruction religieuse. De ce fait, il ne semble jamais avoir entretenu le moindre doute, et je ne pense pas qu'il serait conforme à une saine expérience de le mettre en question. Dans les pages suivantes, le lecteur aura, je l'espère, des raisons suffisantes de conclure que ces preuves de communication immédiate à son esprit, qu'il estimait divine, et sous lesquelles sa foi fut exercée du début à la fin, justifiait pleinement le langage fort qu'il employait la plupart du temps, en décrivant ses vues sur l'œuvre de Dieu dans l'âme, et en donnant des conseils religieux, qu'il se référa à ses jeunes années ou à des périodes plus avancées de sa carrière. Car pour avoir ainsi transmis leur propre expérience concernant la révélation intérieure et immédiate, les amis furent accablés d'un poids de blâme injuste, et les vannes de la controverse s'ouvrirent sur eux de presque toutes parts, les exposant à des moqueries et des injures imméritées. Beaucoup, même de nos jours, entretiennent des notions erronées au sujet des vues de la société des amis sur ce point, ce qui a conduit à supposer que la doctrine n'est soutenue ni par l'Écriture ni par les faits. Eux, toutefois, affirment qu'elle est fondée sur l'une et sur les autres, et ce que leur croyance est réellement peut être exposé sans crainte d'être contredit par ceux qui ont été spirituellement instruits des choses divines. Car dans le progrès de l'œuvre de régénération, qui n'est pas moins réelle et efficace qu'intérieure et mystérieuse, une intelligence est donnée, en est par laquelle la « nouvelle créature » est rendue capable de recevoir les mystères du royaume des cieux. Non cependant selon sa propre volonté, et à tout moment lorsqu'elle est assise pour scruter les saintes écritures, mais lorsque ces écrits sont ouverts à l'esprit et rappelés à la mémoire, par celui qui connaît leur état de croissance, ce dont ils ont besoin et ce qu'ils sont capables de porter. C'est ainsi, alors qu'ils se trouvaient marcher dans l'obéissance de la foi, que des hommes tels que William Dewsbury et beaucoup parmi les premiers amis devinrent bien instruits des choses de Dieu. Ils trouvèrent nécessaire de renoncer à toutes leurs tentatives d'acquérir la connaissance religieuse par la seule culture ordinaire de leur faculté de raisonnement. Ils n'avaient pas la liberté d'amasser des réserves, même de connaissances scripturaires, selon la pratique commune des autres. Au contraire, dans divers cas, il leur fut demandé de renoncer à la connaissance ainsi acquise, de désapprendre l'Écriture telle qu'elle leur avait été enseignée auparavant, et d'attendre dans une grande humilité, comme au pied de Jésus ce qu'ils firent avec patience et diligence, de recevoir une intelligence que l'homme naturel ne possède pas, et dans laquelle seules les choses spirituelles, dont il est rendu témoignage, peuvent être. Ces vues, toutefois, n'empêchèrent pas Fox, Penn, Pennington, Dewsbury et l'ensemble des amis des premiers temps d'accorder à la Sainte Écriture une valeur tout aussi élevée que leurs contemporains. Ils acceptaient ces écrits, tout comme les grands professeurs de leur époque, comme donnés par inspiration de Dieu et utiles aux fins pour lesquelles ils étaient destinés, à savoir pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, propre à toute bonne œuvre. Et il les croyait capables de rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ, mais la foi, en ce sens, est un terme très vaste. Ainsi, William Dewsbury, répondant à un adversaire dans une brochure polémique, dit « Pour l'amour des simples, nous déclarons ce dont tous les enfants de la lumière rendent témoignage, que la parole de foi est dans le cœur et dans la bouche, et que ceux qui sont guidés par elle sont gardés purs. La foi purifie le cœur, qu'ils aient ou non la déclaration extérieure. Et ceux qui ont la déclaration extérieure, quand bien même ils la lisent, s'ils ne prennent pas garde à la parole qui est vie et lumière et qui a produit les Écritures, ne vivent pas selon les Écritures, car ceux qui ne sont pas guidés par la parole sont sans foi. La foi ne vient pas par une simple lecture de la déclaration extérieure, mais elle est le don de Dieu à ses enfants, qui écoutent diligemment sa parole, qui est vie, et la vie est la lumière des hommes. De nouveau, aucun ne vient à la connaissance du Père par la lecture des Écritures, s'il ne vient pas à Christ dont elles rendent témoignage, et en qui est la vie, lui qui a dit « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et il reprend tous ceux qui ne veulent pas venir à lui afin d'avoir la vie. » De nouveau, l'Écriture est un vrai témoignage de celui qui est le chemin vers le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils le révèle. Nous reconnaissons Christ, qui était avant les Écritures, et en est l'autorité, car lorsqu'il les a produites, il a parlé comme ayant autorité, et selon ce que Christ dit des Écritures, nous les reconnaissons en leur place, comme un vrai témoignage de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. L'exposé doctrinal précédent, pris conjointement avec des résultats pratiques, tels que le lecteur en rencontrera au fil de ces pages, donnera, je l'espère, une idée claire et juste de ce que la Société des Amis entend lorsqu'elle affirme la continuation de la révélation intérieure et immédiate. Je vais donc poursuivre, sans plus tarder, avec les sujets d'un autre chapitre, chapitre I-1646. L'inclination de William Dewsbury à prêcher, lui, est enjoint d'attendre jusqu'en 1652, exercice spirituel supplémentaire, sa déclaration concernant la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, sa puissance et son efficacité dans son propre cas remarque sur l'aptitude de William Dewsbury au ministère. À ce moment-là, en 1646, William Dewsbury, ayant éprouvé en lui-même l'efficacité de l'unique baptême salvateur, avait commencé à ressentir un fort engagement d'esprit, l'inclinant à déclarer aux autres ce que le Seigneur avait fait pour son âme, et il était en fait entièrement disposé à se mettre aussitôt à l'œuvre, quand et comme le Seigneur l'ordonnerait, dans la tâche de prédicateur de l'Évangile. Il paraît toutefois clair qu'il n'avait pas alors reçu la commission nécessaire, qui devait lui être communiquée en temps voulu. Car tandis qu'il y réfléchissait, il est un fait non moins remarquable que certains déjà rapportés, que sous l'influence du Saint-Esprit sur son intelligence, il lui fut commandé de rester jusqu'à l'année 1652. Cette vive impression s'accompagnait d'une indication prophétique. Au temps fixé, il s'élèverait dans le cœur des gens plus de faim et de soif après le Seigneur qu'il n'y en avait alors. Dans l'obéissance de la foi, suivant ses directions dont il avait appris, à cette époque, la nature, il continua pendant plusieurs années l'exercice de son métier. Il tint aussi des réunions religieuses dans sa propre maison et dans le voisinage où il demeurait, jusqu'à ce que le temps fixé arrivât. Entre-temps, il ne semble pas, d'après les informations qui nous sont parvenues, qu'il eût l'habitude d'exercer quelque don vocal que ce soit, soit dans les dites réunions, soit ailleurs. Toutefois, tandis qu'il se trouvait dans cet état de suspense et de dépendance, comme il nous l'apprend, et avant d'être connu de George Fox, il dut passer par diverses épreuves et tentations, et fut profondément éprouvé pour l'épreuve de sa foi qu'il avait reçue du Seigneur Jésus. Tout cela, sans doute, tendit à le préparer plus pleinement à la grande œuvre et au service auquel il était destiné. Voici ses propres paroles sur ce point de son histoire. « En ce jour et à cette heure de tentation, je vis s'accomplir en moi ces écritures concernant l'état de Paul, dont il se plaignait comme je m'en plaignais alors. Je trouvai une loi dans mes membres, faisant la guerre à la loi de mon esprit, de sorte que, lorsque je voulais faire le bien, le mal était présent en moi, ce sentiment me fit crier, « Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort !» Tandis que je criais au Seigneur pour qu'il me délivrât du fardeau sous lequel je gémissais, la parole du Seigneur vint à moi, disant, « Ma grâce te suffit, je te délivrerai. » Et par la puissance de cette parole, je fus armé de patience pour attendre dans son conseil, gémissant sous le corps du péché au jour et à l'heure de la tentation, jusqu'à ce qu'il plût au Seigneur de manifester sa puissance pour me délivrer, ce qui fut en l'année 1651. Ainsi, par la loi juste de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, j'ai été et je suis affranchi du corps du péché et de la mort. Et par ces grandes tribulations, mes vêtements sont lavés et blanchis dans le sang de l'agneau, qui m'a conduit dans la nouvelle Jérusalem, où nul n'entre qui commette l'abomination ou profère un mensonge, mais seulement ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ici, mon âme se nourrit maintenant de l'arbre de vie, après lequel j'avais si longtemps eu faim et soif, et qui se tient dans le paradis de Dieu. Ici, il n'y a plus de malédiction ni de nuit, mais le Seigneur Dieu et l'agneau sont ma lumière et ma vie au siècle des siècles. Et je rends témoignage que je suis régénéré et né de nouveau de la semence immortelle, et qu'ayant part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur de tels êtres. Et je déclare ceci à tous les habitants d'Angleterre, et à tous ceux qui habitent sur la terre, que Dieu seul est le maître de son peuple. Il a donné à chacun une mesure de grâce qui est la lumière venant de Christ. Elle reprend et réprouve le péché, dans le secret du cœur et de la conscience. Tous ceux qui attendent dans cette lumière, qui vient de Christ, et qui est la grâce gratuite de Dieu, afin que la puissance de Jésus-Christ détruise le péché et les guide dans l'obéissance à la lumière, viendront à connaître le seul vrai Dieu et Père des Lumières en Jésus-Christ, qui est le chemin vers lui. J'en rends témoignage à tous les fils des hommes. Je ne suis pas venu à la connaissance de la vie éternelle par la lettre de l'Écriture, ni en entendant des hommes parler du nom de Dieu. Je suis venu à la vraie connaissance des Écritures et du repos éternel dont elles rendent témoignage en Christ, par l'inspiration de l'Esprit de Jésus, le lion de la tribu de Juda, qui seul est trouvé digne d'ouvrir les sceaux du livre. Commentaire de l'éditeur du site. Dewsbury parle clairement ci-dessus d'un souffrir sous le fardeau du péché, d'éprouver de grandes tribulations, 3 d'être libéré du péché, 4 du fait que Christ ressuscite en lui, 5 et d'être transporté dans le royaume de Dieu, 6 d'être dans la nouvelle Jérusalem, et 7 de se nourrir de l'arbre de vie qui se tient dans le paradis, le royaume de Dieu. Ainsi toutes les promesses des Écritures ont été constatées comme ayant été accomplies. Dewsbury avait fait l'expérience de l'unique baptême et de la résurrection, comme George Fox l'explique plus en détail dans son journal. Vous devez avoir communion avec Christ dans ses souffrances. 1 Pie 4, 12, 13, si vous voulez régner avec lui, vous devez souffrir avec lui. 2 Tim 2, 12, si vous voulez vivre avec lui, vous devez mourir avec lui. 2 Tim 2, 11, et si vous mourrez avec lui, vous devez être enseveli avec lui. Rome 6, 4, et étant enseveli avec lui dans le vrai baptême, vous restez. Col 2, 12, le témoignage, dont est principalement tiré le récit précédent de ses progrès spirituels, fut écrit, comme indiqué plus haut, depuis la prison de Northampton en l'année 1655, après qu'il se fut trouvé uni à un peuple que le Seigneur avait suscité. À ceux-ci, ses amis en Christ, il adresse de manière touchante ses paroles à la fin du passage ci-dessus. « Chers amis, dont l'esprit est tourné vers la lumière efficace qui vient de Christ, veillez tous à votre propre mesure et contentez-vous de ce que le Seigneur vous a confié. Par la lumière, jugez ce qui voudrait entraîner vos pensées à regarder l'état des autres et, dans l'impatience, à convoiter ce que le Seigneur leur a donné avant que cela ne vous soit manifesté. Soyez fidèles, chacun dans votre propre mesure, et dans la patience, attendez l'Esprit illimité de Christ, votre vie, pour qu'il ouvre les sceaux du livre et vous fasse connaître le mystère de la vie éternelle. Il le révélera chaque jour en vous qui êtes fidèles dans vos propres mesures, pour suivre le Seigneur en ce qu'il vous manifeste, vous qu'il a appelé dans sa vigne à la 9e et à la 11e heure. Soyez fidèles au Seigneur en marchant dans l'obéissance à lui dans la lumière. Il fera une œuvre brève sur la terre à cause de sa semence, et votre récompense sera repos et paix en la présence de Dieu en Christ, avec ceux qui sont entrés dans la vigne à la 3e et à la 6e heure, et ont travaillé sous la chaleur du jour. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous, ses serviteurs et enfants choisis, et tous, selon votre mesure, demeurez dans sa puissance courageux, vaillant et fidèle jusqu'à la fin, et il vous couronnera de gloire éternelle en Christ, notre juge, Seigneur et Roi, Dieu au-dessus de tout, béni pour toujours. Amen, le lecteur ne se trouvera plus, à présent, en difficulté pour porter un jugement, tant sur la conception de la doctrine chrétienne que sur le degré d'expérience religieuse avec lequel William Dewsbury entreprit le service important et ardu de ministre de l'Évangile. Il est évident que son aptitude à une telle fonction ne dépendait ni d'une éducation ni d'acquis artificiels, ni d'une inclination particulière de son esprit, ni de la force de son génie, mais de la préparation que l'homme tout entier avait subie, tandis qu'il reposait comme l'argile sur la roue du grand potier. Ayant dans cet état, pleinement reconnu en lui-même l'impossibilité totale d'atteindre la paix avec son Créateur, de manière à jouir de la communion avec lui, sans la médiation d'un Sauveur qui, comme avocat auprès du Père, pouvait plaider son propre sang très précieux comme prix payé pour la rançon des âmes, et profondément convaincu de l'importance d'obtenir la possession des biens ainsi pourvus, lesquels sont diversement exposés dans les Saintes Écritures, et aux réelles enjoames desquelles elles offrent un si grand nuage de témoins. Il fut infatigable dans la poursuite de ce seul grand objet. Christ, Christ, était le cri incessant dans le secret de son âme, Christ, le pain de vie, la source des eaux vives. Il ne lui suffisait pas qu'on lui dît, même dans le langage des Saintes Écritures, que Christ était son sauveur et rédempteur, qu'il avait goûté la mort pour chaque homme, qu'il est la propitiation pour les péchés de tous, qu'il a été manifesté pour ôter nos péchés, et qu'il avait effectivement porté nos péchés en son propre corps sur le bois. Il voyait qu'il n'y avait pas d'héritage de la promesse pour la première naissance, cette nature corrompue qui dans la chute s'attache à Adam et à tous ses enfants sous laquelle il gémissait, et de laquelle il voit. En accord avec cette perspective, et profondément sensible d'une autre vérité de l'Évangile, trop peu acceptée dans toute sa portée réelle et pleine, à savoir que si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne pouvait trouver pour lui-même aucune consolation à moins d'une preuve sensible, donnée et reçue dans cette foi qui est l'assurance des choses qu'on espère, que cette œuvre de justice était, dans une certaine mesure, accomplie et progressait dans son âme. Lorsque, enfin, il sentit que tel était le cas, ce qui ne fut qu'après une lutte intense de la nature corrompue, de l'esprit charnel, pour conserver sa propre vie, il fut d'autant plus encouragé à attendre dans la lumière qui avait manifesté sa condition réelle. Il découvrit que le séducteur avait toujours flatté sa conscience jusqu'à l'endormir d'un sommeil trompeur, sous la fausse supposition que croire au témoignage extérieur concernant Christ, s'appuyer sur ses mérites, et se contenter de la forme d'une vie sainte, sans sentir la puissante vertu de son esprit suffisait, ou ferait de lui l'un des rachetés du Seigneur. Il attendit donc, avec une attention profonde et obéissante, de plus amples dévoilements de cette lumière divine, qui, dans son expérience, ne se révéla être rien d'autre que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a cependant rien dans ses vues qui autorise à penser que William Dewsbury attachait peu de prix à quelque branche que ce soit de la doctrine chrétienne, particulièrement à celle du prix payé pour la rançon des âmes. Au contraire, nous avons déjà vu qu'il y a toute raison de conclure qu'il ressentait, avec une conviction plus qu'ordinaire, toute la force de ces passages des Saintes Écritures qui exposent le plus clairement l'unique grande offrande pour le péché. Bien qu'il fût parvenu à une preuve claire et incontestable en son propre esprit que la rémission des péchés par le sang de Jésus-Christ devait et doit être prêchée partout, il fut néanmoins, avec autant de vérité pour étayer sa conclusion, contraint de rendre témoignage que nul ne peut devenir participant des bienfaits de la mort de Christ s'il n'est pas fermenté dans une mesure de sa vie, ce qui s'opère dans l'esprit obéissant, conformément au témoignage de Jean dans sa première épître, si nous marchons dans la lumière. Il n'y a aucun doute que la raison pour laquelle tant de personnes qui professent le nom chrétien ne font l'expérience de cette purification que très partiellement, si tant est qu'elles la fassent, et rejettent par conséquent la doctrine de la perfection, une purification parfaite et un perfectionnement de la sainteté est que cette doctrine, qui inclut le port quotidien de la croix et le renoncement à soi dans toutes ses opérations trompeuses, est tellement perdue de vue. William Dewsbury, comme les premiers amis, et sans exception de beaucoup de nos jours, le vit clairement, et je crois qu'il y a, dans l'esprit de nombreuses personnes, une conviction de la vérité de ce point, qui ne sont pas encore pleinement entrées dans le repos préparé pour le peuple de Dieu. Sur ce fondement, l'effort constant de cet ami, et le fardeau de son esprit, fut de diriger les gens, dans l'exercice de son don ministériel, que ce fût par la parole ou par l'écrit, vers l'unique voie par laquelle l'homme peut devenir participant de l'héritage des saints dans la lumière. Il savait bien, non comme quelqu'un qui ne fait que regarder dans la loi parfaite de la liberté, mais comme quelqu'un qui y persévère et met l'œuvre en pratique, que l'obéissance à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est la condition indispensable du discipulat. Et n'osant pas l'imiter, comme l'esprit raisonneur est si prompt à le faire, l'esprit du Seigneur, il savait qu'aucun sacrifice requis de la volonté corrompue ou des inclinations de l'esprit, si inexplicable qu'il fût pour la créature quant à sa nature ou à son importance, ne pouvait être refusé sans entraver l'œuvre de justice et entraîner la perte de la paix, car il n'était pas nouveau que les choses folles deviennent le moyen de confondre celles qui sont estimées sages dans ce monde, ni que les choses faibles soient employées pour abattre celles qui sont. William Dewsbury et les premiers amis en eurent une grande expérience. Ainsi préparé, ayant d'abord reçu le don et un appel distinct à l'œuvre, il sortit comme ministre de l'Évangile éternel, étant rendu capable, par sa propre connaissance de la parole de la vie éternelle, de rapporter aux autres les grandes choses que le Seigneur avait faites pour son âme. Et la portion suivante de notre récit sera le meilleur commentaire sur le degré de sa qualification pour cet engagement solennel. Chapitre Yves, 1649. Son mariage, sa foi éprouvée, assurance d'un soutien qui lui est accordé George Fox, et lui se rencontre et s'unisse est appelé au ministère, ayant entre prédictions antérieures témoignage de Thomas Thompson le concernant comme puissant ministre. William Dewsbury semble être entré dans l'alliance du mariage assez tôt dans sa vie, et bien que je n'ai pas réussi à trouver beaucoup de détails relatifs à cet événement, d'après le meilleur calcul que j'ai pu faire, je suppose qu'il eut lieu vers la 26e année de son âge, 2 ou 3 ans plus tôt que la date de 1649, à laquelle nous sommes maintenant parvenus. Les faits qui me sont parvenus sur ce sujet peuvent être rapportés comme suit. Quelque temps après que William Dewsbury fut entré dans l'armée, il entendit par hasard parler d'une jeune femme de York qui, comme lui, avait beaucoup souffert de tristesse et d'angoisse au sujet de l'état de son âme immortelle, au point que, disait-on, elle était prête à désespérer de la miséricorde du Seigneur. Après mûre réflexion, comme l'idée lui vint au cœur d'aller lui rendre visite, il décida de le faire et y alla. Au cours de leurs échanges, ils en vinrent à comprendre l'état spirituel l'un de l'autre, qui se révéla très semblable, ayant traversé les mêmes exercices de sorte qu'ils se trouvèrent presque unis d'esprit et de jugement, comme dans l'eau le visage répond au visage. Ils se séparèrent. Le récit ajoute que quelque temps après, William Dewsbury se maria, mais ne nous dit pas si la jeune femme en question fut effectivement l'objet de son choix. Toutefois, les circonstances étant rapportées de manière si étroitement liée, et la cérémonie du mariage ayant eu lieu à York, nous pouvons, avec une certaine sûreté, conclure par l'affirmative. L'union fut célébrée lors d'une assemblée d'anabaptistes, avec lesquels la jeune femme était associée par profession religieuse. On rapporte que ce fut un temps de faveur divine, leurs enfants, qui sont ici les historiens, ayant souvent entendu leur père dire que les cœurs de ceux qui assistèrent à la cérémonie étaient si bouleversés par le sentiment de la présence divine qu'il y eut peu Dieu sec dans la pièce. Une circonstance, qui suivit immédiatement cet événement intéressant et qui constitua une rude épreuve de sa foi, semble montrer que, lorsqu'il fit ce pas important, ses conditions extérieures étaient loin d'être prospères. Sa femme paraît avoir été une femme possédant des terres d'une valeur considérable, dont elle fut injustement dépouillée par son frère. Et bien que l'on dise que tout était clair quant aux démarches, et que l'affaire ait été portée en justice, la décision fut pourtant contre lui, le juge ne voulut pas lui laisser la propriété. Tandis qu'il rentrait chez lui, il subit les assauts de l'ennemi, qui insinuait dans son esprit des doutes pour avoir épousé une femme bien éduquée, qu'il allait maintenant probablement conduire à la pauvreté. Dans l'humiliation et l'abaissement de cœur devant le Seigneur, sans céder aux tentateurs, il pria le Seigneur de le rendre content d'être ce qu'il voudrait qu'il fût, et en un instant, il fut si rempli de la présence du Seigneur qu'il ne put porter le poids de la gloire qui était sur lui. Et il pria le Seigneur, s'il avait pour lui quelque service à accomplir, de se retirer, autrement il ne pourrait vivre. Il entendit comme une voix dire, « Tu es à moi, tout ce qui est au ciel et sur la terre est à moi, et cela est à toi en moi. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donnera grâce, faveur et gloire. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent avec droiture. » PS 84, 11 où il s'établit après cette réalisation de ses souhaits ne paraît pas. Mais en 1655, lorsqu'il fut traduit devant le juge Hall, comme on le relatera plus loin, sa résidence était à Wakefield, et il avait alors une famille de 3 enfants. C'est en l'année 1651 que William Dewsbury rencontra pour la première fois cet éminent ministre et serviteur de Christ, George Fox, que l'on peut considérer comme l'instrument principal dans le rassemblement de la Société des Amis. Le premier entretien entre eux eut lieu dans la maison du lieutenant Ropé, à Cinderhill Green, près de Balby, dans le Yorkshire, où George Fox tenait des réunions peu après sa libération du cachot de la prison de Derby. Il y avait été cruellement et très injustement détenu pendant 6 mois, et, durant les 6 mois précédents, dans la maison de correction, au total 12 mois d'emprisonnement rigoureux. Il avait toutefois, à cette époque, obtenu un tel succès dans sa prédication qu'il avait fait de nombreux convertis à sa doctrine, et, depuis Derby, après sa libération, il traversa de nombreux lieux des comtés voisins, visitant ses amis et prêchant au peuple la repentance et la parole de vie, et beaucoup d'autres furent convaincus. Arrivant à Balby, où plusieurs de ses amis résidaient, William et Anne Dewsbury l'entendirent prêcher chez le lieutenant Ropé, où il fut aussi rejoint par Thomas Goder, James Naylor, Richard Farnsworth et d'autres. À une réunion du soir là-bas, dit George Fox, William Dewsbury et sa femme vinrent et m'entendirent déclarer la vérité. Et après la réunion, la nuit étant éclairée par la lune, je sortis marcher dans le champ, et William Dewsbury et sa femme vinrent à moi dans le champ, et confessèrent la vérité et la reçurent, et après quelque temps, il en rendit témoignage. Commentaire de l'éditeur du site, la première mention de William Dewsbury dans le journal de George Fox, et William Dewsbury aussi, et sa femme, avec beaucoup d'autres, vinrent à moi, ils furent convaincus et reçurent la vérité. Notez qu'il n'est pas fait mention d'une rencontre avec Dewsbury dans le champ. Et si vous examinez attentivement la déclaration, il n'y a pas d'affirmation spécifique selon laquelle Dewsbury aurait reçu la vérité à ce moment-là, car il l'avait reçue bien auparavant, et il est probable que Fox faisait plutôt référence aux beaucoup d'autres comme ayant reçu la vérité. D'où l'éditeur a tiré l'histoire du champ demeure un mystère, elle ne vient pas du journal de Fox. En même temps, je pense que nous ne devons pas comprendre de cela que George Fox ait eu beaucoup, voir quoi que ce soit, à faire pour amener ses amis aux principes qu'il prêchait, car le mari, du moins, était de la même croyance avant leur rencontre, ce dont George Fox, lorsqu'il écrivit son récit, n'avait peut-être pas pleinement conscience. On peut dire que l'entretien offrit aux parties l'occasion de constater les fondements d'une véritable communion. Car il est clair que William Dewsbury avait été auparavant instruit dans la même école et par le même maître divin. Saul Asterisk nous apprend que c'était l'un de ceux qui avait déjà été convaincu immédiatement, comme George Fox lui-même, et qui, venant à lui, se trouva en unité avec lui. Asterisk Saul, lui-même Quaker hollandais, a écrit The History of the Rees, Increase and Progress of the Christian People Called Quakers, un ouvrage en deux volumes, disponible au format PDF sur ce site pour votre lecture, voire le PDF Library Guide. Cet ouvrage fut publié en 1685 et contient des entretiens avec des témoins oculaires de nombre des événements qu'il rapporte. Saul est considéré comme l'historien de référence du premier mouvement Quaker. Le temps approchait maintenant pour William Dewsbury d'entrer dans des devoirs plus actifs et plus publics. Depuis peut-être 6 ans, il vivait retiré dans la vie domestique. Il s'était marié, était devenu père, et il y avait toute raison qu'il désirât pourvoir aux choses nécessaires et honnêtes aux yeux de tous les hommes. Quant à son appel à l'œuvre du ministère, il n'y a aucune raison de croire qu'il reçut une quelconque mission à cet effet avant la fin de 1652. J'ai attendu, dit-il, dans le conseil de mon Dieu, dans l'appel où j'étais placé, jusqu'à l'année 1652. Et au 8e mois de l'année, la parole du Seigneur vint à moi, disant, « Les conducteurs de mon peuple les font errer, en les détournant de la lumière dans leur conscience, l'onction intérieure que le Père a envoyée pour être leur maître, et qui les conduirait dans toute la vérité, pour chercher le royaume de Dieu dans des observances où ils ne se trouvent pas. Certains périssent faute de pain. Vous avez reçu gratuitement, donné et servi gratuitement, et ce que je vous ai fait connaître en secret, déclarez-le ouvertement. Cette parole me contraint, par sa puissance, à laisser ma femme et mes enfants, et à aller déclarer aux âmes où est leur maître, la lumière dans leur conscience, dont le Seigneur a donné à chacun une mesure, pour l'avantage de tous, pour l'exercice de la conscience envers Dieu et les hommes. En attendant dans la lumière la puissance de Christ, il les conduirait aux sources vivantes des eaux, où leurs âmes trouveraient rafraîchissement en la présence du Seigneur, et leur pain serait assuré, et leur eau ne manquerait jamais, comme le Seigneur l'a manifesté à mon âme. On se souviendra sans doute que lorsque William Dewsbury reçut l'ordre, comme on l'a déjà rapporté, de différer son entrée dans l'œuvre du ministère jusqu'en 1652, la raison qui lui fut donnée était qu'alors il y aurait, dans le cœur du peuple, une plus grande faim et soif du Seigneur. Que ce fut réellement, le cas peut se conclure en partie du grand succès qui avait accompagné le ministère de George Fox et d'autres amis, qui avaient commencé, quelque temps avant cette date, à exercer leurs divers dons comme ministres de l'Évangile. Dès 1647, les doctrines des amis commencèrent à se répandre dans le Leicestershire, comté natal de George Fox, et en 1648 dans le Warwickshire, le Nottinghamshire, le Derbyshire et les comtés voisins, dans le Yorkshire en 1651, date de la première rencontre de George Fox et William Dewsbury, dans le Lancashire et le Westmoreland en 1652, dans le Cumberland et le Northumberland en 1653, et à Londres ainsi que dans la plupart des régions. John Whiting, à propos de la cité de Londres à la date mentionnée en dernier, qui fut la première année où James Naylor et d'autres la visitèrent, dit « Il y avait beaucoup d'agitation et un accroissement de connaissances, et parmi plusieurs milliers, une soif de l'aurore du salut et de l'accomplissement des promesses. C'est une circonstance intéressante que je puisse présenter au lecteur un témoignage si ancien de la puissance et de l'efficacité du ministère de William Dewsbury, comme celui qui nous est fourni sous la plume de Thomas Thompson, qui fut l'un de ses premiers convertis et qui devint bientôt, selon le récit, ministre de la même parole. La circonstance est rapportée comme suit. Or, il advint, vers le 6e ou le 7e mois de l'année 1652, que nous entendîmes parler de personnes suscitées à Malton ou aux environs, que l'on appelait Quakers, et c'était la première fois que l'on entendait ce nom appliqué à un quelconque peuple. La plupart des gens parlaient contre eux, mais lorsque je cherchais scrupuleusement ce qu'on avait à leur reprocher, qui pût donner lieu à de telles calomnies, je ne trouvais personne qui pût justement les accuser d'aucun crime. On disait seulement qu'ils étaient fantasques et présomptueux, qu'ils brûlaient leurs dentelles et leurs rubans, et d'autres choses superflues qu'ils avaient coutume de porter auparavant, et qu'ils étaient pris d'étranges accès de tremblements et de frémissements. Ces récits augmentèrent mon désir de les voir et de faire la connaissance de quelques-uns d'entre eux, et, au 8e mois de l'année susmentionnée, j'appris que les Quakers étaient venus à Bridlington. Je me réjouis grandement en mon esprit, espérant obtenir quelque occasion de les voir. C'était ce fidèle ouvrier et ministre de l'Évangile, William Dewsbury, qui avait alors été envoyé dans ces régions, et le 5e jour suivant, j'appris qu'ils étaient allés à Frodingham. Étant au travail pour mon maître à Brigham, je ne pouvais pas m'y rendre de jour, mais je décidai d'y aller de nuit, et j'aurais volontiers voulu que quelques connaissances m'accompagnassent, mais la nuit étant très sombre, personne ne voulut venir et j'y allai seul. Entrant dans la pièce où se trouvait William, je le trouvai en train d'écrire, et le reste de sa compagnie assis en silence, paraissant très recueillis d'esprit et tournés vers Dieu, leurs visages graves et solides, me prêchaient et confirmaient ce que je croyais auparavant, qu'ils étaient le peuple du Seigneur. Après un peu de temps, William cessa d'écrire, et beaucoup de gens de la ville entrant, il commença, dans la puissance et la sagesse de Dieu, à déclarer la vérité. Et oh, combien mon âme fut rafraîchie, et le témoignage de Dieu atteint dans mon cœur. Je ne puis l'exprimer par la plume, je n'avais jamais entendu ni ressenti rien de semblable auparavant, car il parlait comme ayant autorité, et non comme les scribes, de sorte que, quand bien même le monde entier aurait dit non, j'aurais encore pu rendre témoignage que c'était la vérité éternelle de Dieu. Dans le même mois, ma bouche fut ouverte, dans la vie, pour déclarer le nom du Seigneur et prêcher la repentance au peuple, et l'œuvre du Seigneur prospéra entre les mains de ses fidèles serviteurs. Je sentais une bride à ma langue, et je craignais fort d'offenser le Seigneur en pensée, en parole ou en action, et la parole du Seigneur était en moi, « Tu ne feras pas tes propres œuvres, ni ne penseras tes propres pensées, ni ne diras tes propres paroles en ce saint jour qui est le mien. » Bien que j'aie souffert et traversé de nombreux grands exercices, le Seigneur soutint mon esprit et me porta, tant que je demeurai fidèle à lui, à la louange de son propre nom. Mais par des raisonnements, et en regardant trop mes incapacités et mon manque d'aptitude à une œuvre si lourde, l'ennemi l'emporta parfois, me maintenant dans la désobéissance et abattant mon esprit si bas que ma croissance en fut entravée pour un temps. Pourtant, le Seigneur, dans son amour sans fin pour ma pauvre âme, renouvela ses visitations, et ma bouche fut souvent ouverte dans les assemblées de son peuple pour louer son nom digne. En ces jours-là, j'accompagnais souvent William Dewsbury, John Whitehead, et parfois James Naylor, ainsi que d'autres premiers ministres, dans l'East Riding du Yorkshire, et la présence glorieuse et la puissance du Seigneur notre Dieu furent richement avec nous, pour la victoire sur nos âmes, le réconfort de son héritage, et la louange de son propre nom. Les circonstances, rapportées ci-dessus semblent s'être produites, en partie à la période immédiatement antérieure à celle qui vient d'être mentionnée comme le premier voyage de William Dewsbury dans les comtés du Nord-Ouest. Chapitre V 1652-3. Premier voyage de William Dewsbury subit des outrages avec d'autres amis, est presque tué à Sedbug événement sur place épître sur la discipline de l'Église. On ne sait pas avec certitude si William Dewsbury s'était établi avec sa famille à Wakefield dès l'année 1652, ou s'il continua pendant quelques années après son mariage à Althorp. Mais comme Brigham et Frodingham, lieu des événements mentionnés par Thomas Thompson à la fin du chapitre précédent, sont des villages voisins de ce dernier endroit, la probabilité semble pencher en faveur de cette conclusion, d'autant plus qu'il n'est fait mention de Wakefield qu'en 1655, lorsqu'elle était devenue le lieu de sa résidence. Son premier voyage, en tant que ministre, pour des raisons religieuses au-delà de ce voisinage, paraît avoir eu lieu dans les derniers mois de l'année 1652, lorsqu'il se rendit dans le Westmoreland, le Cumberland et le Lancashire, et il partagea le sort commun des autres amis en ces jours-là, qui furent soumis à de grandes souffrances pour l'amour de la vérité. Nos premiers amis se croyaient parfois requis astérisque par le Seigneur de rendre hardiment témoignage, dans les lieux publics de cultes nationaux, contre un ministère non conforme aux Écritures et ses fruits. Le récit suivant, de la plume de George Fox, dans lequel le nom de William Dewsbury apparaît parmi d'autres, ne donnera qu'une faible idée de la cruauté, des injures et de la persécution que les amis endurèrent alors pour cette raison. Il dit, après que j'eus été mis en liberté, c'est-à-dire de la prison de Carlisle, un exemple mémorable du triomphe de la vérité sur la méchanceté, la cruauté et le mensonge eut lieu. J'allai chez Thomas Beaulieu, où un maître baptiste vint pour s'opposer à moi, et il fut convaincu. Robert Withers, qui était avec moi, fut poussé à aller à l'église de Coldbeck, et le maître baptiste l'accompagna le même jour. Les gens se jetèrent sur eux et manquèrent de tuer Robert Withers, ils prirent l'épée du baptiste et le battirent cruellement. Ce maître baptiste possédait l'héritage d'une appropriation de dîmes, et il rentra chez lui et y renonça librement. Robert Withers fut envoyé à la prison de Carlisle, y ayant demeuré quelque temps, il fut remis en liberté. William Dewsbury aussi alla dans une autre église à proximité, et les gens manquèrent de le tuer tant ils le frappèrent. Mais la puissance du Seigneur était au-dessus de tout et les guérit de nouveau. En ce temps-là, beaucoup d'amis allèrent dans les églises pour déclarer la vérité aux prêtres et au peuple, et ils endurèrent de grandes souffrances, mais la puissance du Seigneur les soutint. Astérisque, commentaire de l'éditeur du site, l'auteur de cette biographie, écrite en 1836, laisse transparaître ses doutes quant au fait que le Seigneur est requis, en disant « se croyait requis », les premiers amis d'aller prêcher le véritable évangile auprès d'autres sectes. Peut-être est-ce parce que les Quakers de cette époque s'étaient déjà tellement détériorés que nul n'était appelé et formé par Christ pour être de vrais ministres et envoyés d'eux-mêmes, les laissant quelque peu perplexes quant à la raison pour laquelle les premiers amis étaient si motivés. C'est au cours de ce voyage, dont aucun autre détail n'a été conservé, qu'il se trouva à Sedbug, comme nous l'apprend George Whitehead, éminent ministre, écrivain prolifique dans les controverses de ces jours-là, et compagnon de travail zélé et diligent de George Fox, William Penn et d'autres. Il nous dit qu'à Sedbug, dans le Yorkshire, un jour de marché, vers l'année 1653, tandis que William Dewsbury proclamait la vérité à la croix du marché et avertissait le peuple de se détourner du mal de ses voies pour se tourner vers la grâce de Dieu, la lumière de Christ dans leur conscience, quelques personnes grossières tentèrent avec violence de le pousser à terre. Adossant leur dos à la haute croix de pierre, sans probablement se rendre compte de son état chancelant, et posant leurs mains sur lui, la croix céda et, dans sa chute, se brisa en morceaux. George Whitehead avait alors environ 16 ans, ayant lui-même été convaincu de la vérité des doctrines prêchées par les amis environ un an auparavant, et il rapporte cet événement comme ayant été remarqué à l'époque comme une instance remarquable de la providence particulière de Dieu accompagnant William Dewsbury dans ses travaux, car malgré la multitude rassemblée pour l'écouter, pas une personne ne fut tuée ni même blessée par l'accident. Le nombre de ceux qui s'attachèrent à la nouvelle société augmentant désormais rapidement, il ressort de la teneur des premières épîtres de William Dewsbury que des circonstances survinrent bientôt parmi les premiers convertis aux doctrines prêchées par lui et ses compagnons, qui montrèrent la nécessité d'une certaine discipline pour l'aide mutuelle des membres, pour la manifestation de l'unité et du bon ordre des églises, et pour l'établissement de réunions, à mesure que la vérité se répandait dans de nouveaux districts. Les deux allocutions suivantes peuvent servir, la première à illustrer le fait, et la seconde à montrer la manière dont il fut conduit à pourvoir à ce besoin. La seconde seulement figure dans ses œuvres rassemblées, où elle se place en premier parmi ses épîtres, et porte la date de 1653. Elle contient, à mon avis, la première esquisse connue d'une tentative de système de discipline religieuse parmi les amis, et elle présente une certaine analogie avec ce que George Fox introduisit bien des années plus tard sous une forme beaucoup plus développée, et qui a continué de fonctionner dans la société jusqu'à nos jours. Dans l'introduction de la nouvelle édition des Rules of Discipline of the Religious Society of Free and Without Vice, je trouve la déclaration suivante, qui porte directement sur ce point et appuie l'hypothèse que j'avais formée au sujet de l'épître en question. Avant l'établissement de ce système régulier de discipline et du mode de représentation dans les réunions pour en assurer la conduite, telle qu'il existe aujourd'hui, il s'était tenu de nombreuses assemblées générales dans différentes parties de la nation, afin de pourvoir les ouvriers de l'Évangile, par l'instrumentalité desquels l'Église avait été rassemblée, semblent avoir pris la part la plus importante dans les démarches de ces réunions. La première phrase de la lettre ci-dessous indique la mesure de l'Esprit de Christ par laquelle William Dewsbury parlait et écrivait. Elle est la suivante. Voici la parole du Dieu vivant à son Église, qu'il a appelée et choisie hors du monde, pour y placer son nom, l'ordonner et la guider dans sa sagesse pure pour sa louange et sa gloire, lui qui seul en est digne, Dieu au-dessus de tout, béni pour toujours. Que, dans chaque réunion particulière d'amis, l'on choisisse parmi vous un ou deux de ceux qui ont le plus grandi en puissance et en vie, et en discernement dans la vérité, pour prendre soin et charge du troupeau de Dieu en ce lieu. Et voici la parole du Dieu vivant à vous qui êtes choisis. Veillez sur le troupeau de Dieu, vous à qui la charge et le soin sont confiés, et en exercez la surveillance, non par contrainte mais volontairement, non pour un gain honteux mais avec un esprit prompt. Je vous enjoins et vous commande, en présence du Dieu vivant, de ne pas dominer en seigneur sur l'héritage de Dieu, mais dans la puissance de l'esprit, en toute pureté. Soyez des exemples pour le troupeau, et veillez à ce que l'ordre soit gardé dans l'Église, en se réunissant constamment, selon la règle qui a été publiée, c'est-à-dire une fois par semaine, ou davantage si possible, en plus de la réunion du premier jour. Et vous devez avoir une réunion générale avec d'autres amis proches de vous, une fois toutes les deux ou trois semaines, selon que le Seigneur l'ordonne et en ouvre la voie. Ne soyez pas néglige ni en arrière, mais fidèle au Seigneur, en saisissant toute occasion pour que les amis se réunissent. Et dans chaque ville où les amis sont dispersés, confiez la charge et le soin à quelques amis qui ont le plus grandi dans la vérité, afin de veiller à ce qu'ils se réunissent pour attendre le Seigneur pendant 3 ou 4 heures, comme le Seigneur l'ordonne, une ou deux nuits par semaine. Et veillez les uns sur les autres d'un œil pur et simple, afin de voir que ceux qui viennent parmi eux marchent d'une manière ordonnée, selon ce qu'ils professent. Et si quelqu'un marche d'une manière désordonnée, que ceux à qui le soin et la charge sont confiés, ou tout autre qui le discerne et est poussé à lui parler, le traite avec franchise en le reprenant, en s'adressant à ce qui est pur dans la conscience, afin de le restaurer. Mais s'il ne se réforme pas, informez-en deux ou trois autres qui ont le plus grandi dans la vérité, ou bien, vous à qui la charge et le soin du troupeau sont confiés, avec celui qui l'a déjà averti dans un amour tendre, avertissez-le encore, et avec une parole franche, adressez-vous à ce qui est pur dans sa conscience, afin de susciter le témoin, de juger et d'abattre la tromperie, pour que son âme soit sauvée et sa nudité couverte. Mais s'il marche encore dans le désordre, lorsque l'Église s'est réunie, reprenez-le publiquement. Et s'il ne se réforme toujours pas, mais marche dans sa souillure, alors que l'Église s'est réunie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ordonnez-lui de se retirer du milieu de vous. Ainsi chassez-le, et n'ayez aucune union avec lui, pas même pour manger avec lui, jusqu'à ce qu'il se repente, se tourne vers le Seigneur, et marche dans l'obéissance à ce qui est pur. S'il fait cela, recevez-le de nouveau, mais s'il continue à marcher dans l'entêtement de sa volonté, et ne se plie pas à ce qui est pur dans sa conscience, tenez-le dehors, afin qu'aucune personne souillée n'habite dans la maison de Dieu. Alors la bénédiction du Seigneur Dieu sera avec vous. Et voici sa parole pour vous. Veillez à ce qu'il n'y ait, dans l'Église, personne dans le besoin au dehors, et que tous marchent avec ordre dans leur place et leur vocation. Et si une racine d'amertume venait à germer en l'un ou l'autre, causant la discorde dans leurs esprits les uns contre les autres, dès que vous en avez connaissance, faites comparaître cela devant vous et examinez l'affaire avec rigueur, et tenez-vous dans la sagesse et la puissance de Dieu, afin qu'il vous guide pour juger la cause et y mettre fin dans la justice. Mais si la cause est difficile à discerner pour vous, et que la mesure à laquelle vous êtes parvenu ne puisse discerner entre les parties, je vous en charge et vous commande de ne pas vous hâter, dans la cause qui est devant vous, de la régler avec vos esprits incertains et obscurs, car tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Mais faites venir quelques-uns qui sont plus avancés dans le discernement, afin qu'ils jugent la cause et y mettent fin dans la justice. Alors la tromperie sera jugée, la discorde tenue à l'écart, et l'innocent mis en liberté pour servir le Seigneur, et votre union sera en Jésus-Christ, où vous porterez du fruit demeurant en lui, et par son sang vous vaincrez le monde en vous et au dehors, et vous régnerez comme des rois sur la terre. Dans la puissance du Christ, vous commanderez à l'esprit impur, dans toutes ses apparitions au-dedans et au-dehors, et il se soumettra à la puissance de Dieu en vous, demeurant en celui qui seul est puissance, et à qui appartient toute gloire pour toujours. Que l'Esprit pur du Dieu trésor repose sur vous, que lui a choisi pour veiller sur son troupeau, et que sa puissante force ouvre en vous l'œil pur, afin de discerner et de séparer entre le précieux et le vil, le saint et l'impur, et qu'il vous pourvoie de courage, d'assurance et de sagesse pour gouverner dans la puissance de son esprit, pour abattre toute tromperie, et pour laver les pieds des disciples, en vous inclinant devant l'Esprit pur l'âme à la moindre apparition, et en lui rendant service, afin de fortifier le désir suscité. Alors vous aurez l'unité ensemble dans ce qui est engendré de Dieu, qui règne sur tout, béni à jamais. La sagesse est justifiée par ses enfants. William Dewsbury, l'autre épître à laquelle il a été fait allusion est datée de 1653 et fut imprimée à Londres en 1654, sous forme de tract avec trois épîtres d'autres amis, et elle semble avoir été l'un des premiers écrits diffusés dans la métropole. Aucun lecteur ne doutera qu'elle révèle de forts symptômes du besoin de surveillance et de soins parmi ceux à qui elle était adressée. Chers amis, je souffre avec la semence emprisonnée, vers laquelle j'ai été envoyé pour prêcher l'Évangile éternel, pour l'ouverture de vos yeux aveugles, afin que vous puissiez voir votre condition perdue, comment vos âmes immortelles sont dans la fosse où il n'y a point d'eau, et pour les en faire sortir afin qu'elles se tiennent dans la liberté de l'amour de notre Père, dans la libre alliance de vie en le Seigneur Jésus. Cette alliance est pour la semence, qui est pure et sainte, elle éclaire vos entendements, et vous fait voir chaque sentier de traverse et le large chemin, écrit derrière vous, « Voici le chemin, marchez-y » lorsque vous vous détournez de la lumière pure qui est dans vos consciences. C'est à la lumière dans vos consciences que j'en appelle, et elle en rendra témoignage. Beaucoup d'entre vous n'ont pas été fidèles à marcher avec le Seigneur depuis que vous avez entendu l'Évangile de votre salut. Je vous en charge, en la présence du Seigneur et par sa puissance, d'examiner vos consciences chacun de vous, lesquelles rendront témoignage avec moi. Je souffre parmi vous pour la semence immortelle qui souffre en vous. Je vous en charge, ne méprisez pas l'examen de vos cœurs, chacun de vous en particulier. Je vois qui vous êtes, en qui la semence souffre, chez certains sous une tromperie, et chez d'autres sous une autre. Dans la lumière du Christ, dans vos consciences, je vous dirige, chacun de vous, demeurez dans la lumière pure qui est dans vos consciences, et vous vous verrez vous-même, et vous témoignerez que ces lignes viennent de Dieu, devant qui tout est nu et découvert. Je vous en charge par le Seigneur, hâtez-vous chacun de vous de rencontrer le Seigneur, réformant promptement vos voies. Vous qui êtes paresseux, écoutez la lumière dans votre conscience, et elle vous réveillera, et vous qui vous êtes envolé dans les airs pour parler de ce en quoi vous ne demeurez pas, écoutez, et elle fermera votre bouche, et vous fera vous abaisser devant le Seigneur. Vous qui êtes élevé au-dessus de votre frère, soyez attentif à la lumière dans votre conscience, et elle vous abaissera et vous fera le servir dans l'amour. Vous qui prenez plus de plaisir dans la terre que dans le Seigneur votre Dieu, soyez attentifs à la lumière dans votre conscience, et elle amènera votre esprit terrestre au jugement et vous arrachera à la terre. Et vous qui vous aimez vous-même, si vous vous sauvez vous-même et ne considérez pas votre frère, soyez attentifs à la lumière dans votre conscience, et elle vous conduira au renoncement à vous-même et à aimer votre frère, à veiller sur lui et à souffrir avec lui dans ses souffrances. Je vous en charge, en la présence du Dieu vivant à jamais, que chacun soit fidèle selon la mesure de lumière que le Seigneur vous a donnée, afin de bénéficier à tous, dans l'exercice de vos consciences envers Dieu et envers les hommes. Que la lumière vous guide dans toutes vos voies, et elle purifiera la souillure de la chair. Ainsi l'homme ancien sera dépouillé avec ses œuvres, et la semence emprisonnée sera mise en liberté en vous. Alors nul ne viendra plus vers vous avec une verge, comme je suis contraint de le faire en ce temps, à cause de votre folie, vous qui vous êtes écartés de la sagesse pure, pour regarder au dehors dans le conseil de vos propres cœurs. Car la verge est préparée pour le dos du fou, mais l'œil du sage est dans sa tête. Cet œil est la lumière dans vos consciences, guidée par elle, elle vous conduira à Christ, qui est la source de la sagesse et de la connaissance. Maintenant, vous tous qui marchez en lui, vous régnant vous-même librement, j'ai l'unité avec chacun de vous. Soyez fidèles dans vos mesures, afin que vous puissiez croître ensemble dans le Seigneur Jésus, un peuple particulier, un sacerdoce saint, pour offrir vos âmes et vos corps en sacrifice vivant au Seigneur notre Dieu. Qu'il vous guide par sa puissance pour sa louange et sa gloire, lui qui seul est digne d'être craint et obéi par tous ses saints au siècle des siècles. Avec amour, je vous salue tous dans le Seigneur, et je vous confie à sa puissance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant éclaire vos entendements, vous bénisse et vous guide en sagesse, afin que vous veilliez les uns sur les autres dans l'amour, pour que le Dieu d'amour soit exalté en vous tous. William Dewsbury, décembre 1653. Commentaire de l'éditeur du site, écrite depuis la prison. Dewsbury visitait manifestement les réunions en esprit et considérait en esprit l'état des cœurs des amis mentionnés, tout comme Paul était présent avec les Corinthiens, mais absent de corps. Ceci est un puissant témoignage que la mesure de Christ en Dewsbury était bien au-dessus de ce que la plupart peuvent imaginer possible. Suite, le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.